Comme ça, c'est comme ça, hein, c'est tout. Hein.
Allez.
Principe actif et HDR. Est-ce que vous êtes là, mon ami? Allô?
Ouais.
Ah, il est là, ah. Voilà. Tu vois, c'est Florentin qui avait un problème. Alors, déclinez votre identité. Nous avons 1 minute 50 avant les informations de RFI. Comment vous appelez-vous? Quelle est votre taille en centimètres? Votre rôle social, s'il vous plaît, dans l'agglomération?
Alors, mon identité, Julien, taille en centimètres, je sais pas, il y a longtemps que j'ai pas mesuré, puis je me tape. Je suis animateur territorial sur le beau territoire du Cap Nord-Est. Et avec ça, on organise samedi 30 mai, donc samedi là,
samedi
à
demain.
La salle Gérard Philippe, qui est derrière la mairie de Gravigny, à partir de 19h30, hein, une pièce de théâtre qui s'appelle Le Lac aux Ânes, le camping. Donc c'est les ouges qui partent en vacances. Les ouges et d'une troupe de théâtre intergénérationnelle, on va dire que ça va de la 6e à la retraite. Voilà, qui, et donc on est une dizaine et on propose un spectacle environ de 2 heures, car on a un stage de théâtre de avec des 8-12 ans qu'il y a eu en avril qui font la première partie. Donc il y aura en deux parties un beau spectacle de théâtre samedi là, le 30 mai, à la salle Gérard Philippe.
Mais Julien, je dois amener les ânes à quelle heure?
Non mais viens sans tes ânes, toi tu feras l'affaire.
Je vous adore, Julien, je vous adore.
C'est incroyable.
Et ça parle de quoi exactement
Ça parle de gens qui vont au camping. Hein,
Okay.
On peut pas en dire plus. Après, faut venir voir le spectacle. Hein. C'est.
Faut venir avec ses boules ou pas?
Participation libre, bien sûr.
Pétanque.
C'est un vrai événement parce qu'il y a une buvette. Voilà.
Ah ouais. Ok.
Okay. Non, parce que je pense que si tu ramènes les boules de pétanque, le terrain de la salle Gérard Philippe va pas être content.
Non, on peut pas.
Et comment s'organise cette troupe? Vous voyez, c'est des gens bénévoles. Il y a des comédiens professionnels.
Alors, on n'est pas professionnel, mais on n'est pas loin de l'être quand même, hein, parce qu'on est bon, et en toute humilité. En fait, on répète tous les jeudis soirs dans la salle, l'ancien salle de tri de la poste de Gravigny. Et donc, voilà, c'est une petite troupe de tout âge qui répète. Voilà.
D'accord, ok, très bien. Bon, bah super, Julien, ça nous a fait plaisir de t'avoir. La Web TV Captor S marche bien.
Oui. Non, mais Julien, et comment vous allez faire? Vous allez couper les ondes pour pas que les gens regardent le match de foot? Comment vous allez faire?
Je sais pas. Nous, on a prévu notre spectacle il y a un an. On savait pas qu'il y avait un match de foot. Puis en plus, ça ne nous intéresse pas de fou. Je suis pas sûr que la cible, les gens qui viennent voir du spectacle vivant, faut faire un choix. Voilà, tout simplement.
Donc, de toute façon, il faut être à Gravigny demain à la salle Gérard Philippe à partir de
6h30.
19h30,
début à 20h. Martin, il nous a dit 18h30.
Non, j'ai dit 19h30 avec un début à 20h. Ouais,
parce que Martin, il fait son show tout seul avant.
Bah non, mais en fait, Martin, ce qu'il y a, c'est que lui, il fait la buvette. Donc,
voilà, c'est ça. Voilà. Lui, il fait marcher. Bon, merci, Julien, on est obligé de te quitter parce que.
On adore ce que tu fais, Julien.
Voilà, bah merci, à bientôt.
Lâche rien.
Allez, salut. Ben voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir participé avec nous à cette grande matinale. Merci Mariam d'être venue, d'avoir prêté ta voix dans ces micros. Merci Martin de nous avoir rejoint à l'improviste. Antoine aussi. Un petit mot avant, vous avez 10 secondes chacun. Une bonne pensée, un truc.
C'est qui l'improviste?
C'est moi l'improviste.
La famille Proviste, le chef Proviste. C'est Alain.
C'est Alain.
Un petit mot avant de laisser la place à RFI.
Une grande année. Une grande année où il va falloir se battre et les saltimbanques sont là avec HK et toute la bande.
Martin.
Bon week-end à tous. Avec ce soleil quand même.
Oui, c'est le plus important. Profitez de l'été. Bonnes vacances. Bon week-end.
Ok, super. Allez, un petit bout de morceau de musique. Et puis, après, c'est RFI. Allez, bye bye, ça va couper ses causes tout à l'heure. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, en chair et en os, dans ta radio, rien que pour toi. Passez une très très bonne journée. C'était nous, ensemble.
Salut les Rouennais.
Ciao.
En temps universel, 9h à Paris. Merci d'écouter RFI. Le journal international avec vous, Fabrice Legrillet. Et nous serons en direct de Bucarest dès le début de ce journal. La Roumanie touchée par un drone russe.
L'engin s'est abattu sur un immeuble résidentiel de la ville de Galatz, près de la frontière avec l'Ukraine. De très nombreuses réactions ce matin, celle de l'OTAN notamment, dont fait partie la Roumanie, et qui condamne l'irresponsabilité de la Russie.
Dans l'actualité également, des négociations entre Israël et le Liban aujourd'hui à Washington.
Des représentants sécuritaires libanais et israéliens vont se réunir dans un premier temps avant des pourparlers politiques. La semaine prochaine. Par ailleurs, un cadre d'accord serait en vue entre les États-Unis et l'Iran, même s'il faut rester très prudent. En attendant, Donald Trump veut augmenter la cadence de production des navires de guerre américains, mais il fait face à un manque drastique de main-d'œuvre. La Navy sous pression, c'est notre dossier ce matin.
Dans ce contexte, Total Energy va tenir son assemblée générale annuelle à Paris.
Le géant français qui a enregistré 5 milliards d'euros de bénéfices au premier trimestre, au-delà de ses records, des ONG dénoncent la politique climaticide de l'entreprise. Les détails dans ce journal.
Et puis on reviendra aussi sur l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC.
Un pont aérien a été mis en place pour apporter de l'aide médicale à Bunia, épicentre de la flambée de l'épidémie. Par ailleurs, le Kenya a donné son accord pour l'établissement sur son territoire d'un centre de quarantaine pour les ressortissants américains exposés au virus.
Les réactions et les indignations s'enchaînent donc après la chute d'un drone russe en Roumanie.
Drone qui s'est écrasé dans la nuit dans la ville de Galatz, ville de 250 000 habitants située à la frontière avec l'Ukraine. Lors d'une attaque de la Russie menée dans l'ouest ukrainien, l'appareil s'est détaché avant de foncer sur cette ville roumaine. Guillaume Bernès, vous êtes notre correspondant à Bucarest. Bonjour.
Bonjour.
Guillaume, cette attaque constitue une première pour la Roumanie depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.
Absolument. Sur les réseaux sociaux roumains, les images tournent en boucle. Un bruit de bourdon, puis cette explosion. L'engin d'origine russe, selon les autorités roumaines, transportait une charge explosive. Après avoir pénétré le territoire roumain, l'appareil a explosé sur le toit d'un immeuble. Il a provoqué un incendie dans un appartement au 10e étage. Les deux occupants ont subi des écorchures. L'entièreté de l'immeuble a été évacuée. Alors, le ministre de la Défense roumaine tente déjà de calmer le jeu. Un représentant indique que nous ne sommes pas confrontés à une attaque contre la Roumanie, mais aux conséquences d'un conflit à proximité immédiate de notre frontière. Reste qu'avec cette attaque, la Russie franchit une étape. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine qu'un drone fait des blessés dans le pays, membre de l'OTAN. La porte-parole de l'OTAN, Alison Hart, a déclaré condamner l'inconscience de la Russie. Le Premier ministre roumain, Ilie Bolojan, condamne, lui, une attaque inacceptable. Le mois dernier, un drone avait déjà endommagé un poteau électrique et l'annexe d'une maison, provoquant les premiers dégâts sur une habitation roumaine. La Roumanie a enregistré près d'une trentaine d'incursions de drones russes dans son espace aérien en 3 ans.
Guillaume Bernès en direct de Bucarest. Réaction aussi de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour qui Moscou a franchi une limite. Et la Roumanie convoque l'ambassadeur russe dans le pays après le crash de ce drone ayant blessé 2 personnes.
Le volet sécuritaire des négociations entre Israël et le Liban s'ouvre donc aujourd'hui à Washington.
Et ce, dans un contexte d'escalade militaire qui rend décidément bien fragile le cessez-le-feu officiellement en vigueur depuis le 17 avril. Le Liban, où Israël a étendu sa zone de combat contre le Hezbollah et poursuivi ses frappes. Au moins 17 morts enregistrées hier dans le sud du pays, ainsi que dans la région de Beyrouth, où une femme et 2 enfants ont été tués. L'enjeu des débats entre représentants sécuritaires libanais et israéliens crée les conditions propices au dialogue politique qui reprendra la semaine prochaine entre les deux pays. Mais les demandes américaines paraissent impossibles à satisfaire pour la partie libanaise à Abla Junaidi.
Ce volet sécuritaire des discussions, décorrélé du volet politique attendu la semaine prochaine, c'est l'administration Trump qui l'a voulu. D'après la presse américaine, Washington aimerait avancer sur une solution technique avec l'armée libanaise, la création d'une unité spécialement dédiée au désarmement du Hezbollah, une idée qui ne fait pas du tout l'unanimité au Liban, tant elle porte en elle le risque éminemment politique. Diviser l'armée libanaise est perçu largement comme un péril pour toute la nation. Affronter directement le Hezbollah, nettement mieux doté, est vu comme un suicide. Ni le parti milice, ni son allié chiite, Amal, n'ont envoyé de représentants à Washington. Il rejette l'idée même de négociations directes avec Israël, qui précisément cette semaine a intensifié ses opérations militaires dans le sud du Liban, officiellement pour empêcher les drones suicides du Hezbollah d'atteindre le nord d'Israël. La délégation libanaise demandera en priorité un véritable cessez-le-feu complet et définitif et un retrait de l'armée israélienne de la zone qu'elle occupe. À l'appui de sa demande, elle rappellera le bilan désastreux, matériel et humain, des frappes israéliennes dans le pays depuis le 2 mars dernier, plus de 3000 morts.
Et la fin des frappes israéliennes contre le Hezbollah pro-iranien est l'une des exigences de Téhéran pour parvenir à un accord avec les Américains. Un cadre d'accord semble se dessiner entre les États-Unis et l'Iran, alors il faut bien sûr rester très prudent. Le vice-président américain Jed Evans fait état de beaucoup de progrès, mais Donald Trump n'a pas encore donné son feu vert. Le texte n'est pas encore finalisé, assure de son côté l'agence iranienne Tasnim. Un cadre qui prévoirait de lever les restrictions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz et une extension de 60 jours du cessez-le-feu conclu le 8 avril, du temps supplémentaire qui permettrait d'aborder la question du nucléaire iranien.
Et donc toujours pas de solution diplomatique pour le moment après 3 mois de guerre en Iran. Téhéran qui maintient donc la pression sur le détroit d'Ormuz et la marine américaine, elle, poursuit son blocus.
Et dans notre dossier ce matin, on s'intéresse à l'état de cette flotte, celle de la Navy, puisqu'elle est très sollicitée, en partie obsolète. Et l'administration Trump veut la renouveler le plus vite possible. Bonjour Vincent Sorio.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Alors Vincent, vous revenez du Maine, dans le nord-est des États-Unis. C'est l'un des bastions historiques de la construction navale. Énorme pression de Washington pour augmenter la cadence de production des navires de guerre, mais qui se heurte à un manque dramatique de main-d'œuvre industrielle.
Oui, la base industrielle de défense est en crise partout aux États-Unis depuis des années. Et le Maine fait partie de ces territoires maritimes qui souffrent. Ce n'est pas du tout une question de carnet de commandes. Au contraire, comme vous le disiez Fabrice, le Pentagone veut plus de navires de guerre. Mais le Maine, c'est un état qui vieillit et il n'y a plus du tout assez de forces vives pour répondre à la demande. Vous allez entendre David Daigler qui supervise les établissements spécialisés de toute la région. Il s'arrache littéralement les cheveux pour orienter les lycéens vers ces métiers très spécialisés.
Notre priorité, c'est de garantir que les bonnes personnes dotées des bonnes compétences soient disponibles pour les fabricants de sous-marins et de bâtiments de surface. Mais ces compétences sont énormes. Les gens ne peuvent pas arriver de travail. Il n'y a déjà pas assez de monde qui sort du lycée pour qu'on y arrive. Et même s'il y avait assez de monde, ça ne suffirait pas pour répondre à la demande.
Alors, on parle de quel type de poste, Vincent, sur ces chantiers navals?
Eh bien, les soudeurs navals, les spécialistes de systèmes de tuyauterie complexes, les ajusteurs qui assemblent les pièces pour former la coque, par exemple, un des profils très pointus, très techniques, que l'on met des années à former. Il y a tout un écosystème dans le Maine pour faire émerger ce genre de CV. Tout le monde s'y met ensemble, la marine qui finance, mais aussi la région et les chantiers navals eux-mêmes. Ce sont tous des chantiers privés, comme Bath Iron Works, qui sponsorise ces cursus, avec au bout du processus la construction des destroyers dernier cri de la marine américaine. Kyle Jellison, c'est le chargé de formation chez Bath Iron Works.
En ce moment, nous avons environ 7000 employés, dont 4500 techniciens et mécaniciens. Nous cherchons à en embaucher entre 600 et 800 chaque année. Ça fait beaucoup.
Oui, sous-entendu, c'est impossible. Et ce que nous ont dit hors micro plusieurs acteurs de la filière, c'est que les demandes très pressantes venues de Washington et qui sont réelles dans le Maine, il y a une vraie pression des autorités américaines. Ces demandes sont déconnectées de la réalité. D'abord, on ne fabrique pas un navire de guerre en quelques mois. Et ensuite, il y a un problème structurel, démographique, de pyramide des âges. Et ça, personne n'a de solution miracle.
Notre dossier ce matin, signé Vincent Sorio. Merci Vincent.
Et c'est dans ce contexte marqué donc par le blocage du détroit d'Ormuz, l'augmentation des prix à la pompe, et bien que Total Energy va tenir son assemblée générale à Paris.
Un contexte qui a fait s'envoler les bénéfices du géant français au premier trimestre, des super profits de près de 5 milliards d'euros. Hier, des ONG comme Reclaim Finance, Earth Insight et le réseau Action Climat ont organisé une conférence de presse consacrée aux principaux dossiers environnementaux qui entourent le groupe français. Alors parmi les sujets, l'aggravation de la stratégie climaticide de Total Energy, le soutien sans faille de l'État français en contradiction avec ses engagements climatiques ou encore le rôle méconnu mais essentiel des principaux investisseurs français dont l'institution publique Caisse des dépôts et consignations. Igor Strauss.
Si le contexte géopolitique est favorable à Total Energy, les conditions météorologiques actuelles viennent rappeler une autre réalité. Lorelai Limousin de Greenpeace France.
Cette assemblée générale de Total Energy, elle arrive en pleine canicule. C'est important de rappeler que cette canicule, elle tombe pas du ciel, mais qu'elle est notamment liée à ces multinationales des énergies fossiles comme Total, qui vont à l'assemblée générale se féliciter de profits exceptionnels. Or, ces profits, ils sont aussi destructeurs pour le climat. C'est quand même très indécent.
Alors que la France est engagé dans la sortie juste et ordonnée des énergies fossiles, Total Energy souhaite encore augmenter sa production de pétrole et de gaz, incohérent pour Gaïa Fèvre du réseau Action Climat.
On a Total Energy qui prépare les esprits au fait.
We'll be right back. cadre des Jeux 10 juin. Principe Actif est mis à l'honneur pour la seconde année consécutive. 5 de vos émissions préférées et leurs animateurs s'emparent des platines le jeudi 4 juin à partir de 18h30 au Cube à Évreux pour une sélection musicale riche, variée, détonnante. Rejoignez-nous pour un moment partagé, convivial et festif. Le tout en totale gratuité. Bar et food sur site.
Décontracté du gland.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça.
Merci pour la bonne nouvelle.
Principe Actif, le mix des cultures.